Religions du monde, Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette émission, à l'occasion des élections législatives en Inde, nous recevons le cardinal Georges Alain Cherry, archevêque majeur de l'église Syro-Malabar. Puis le spécialiste de la vie de l'église et des papes, Bernard Lecomte, nous présentera les deux premiers albums de la collection Un pape dans l'histoire, une coédition Glénat, édition du Cerf, qui raconte la grande histoire à travers la figure des papes sous forme de bande dessinée. Enfin, Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie et essayiste, sera notre invité pour son dernier livre « Un catholique s'est échappé ». Commencé le 11 avril, les élections législatives en Inde sont entrées dans leur dernière ligne droite. D'ici le 19 mai, 900 millions d'électeurs auront déposé leur bulletin dans les urnes. Deux visions de l'Inde sont en jeu, celle d'un nationalisme hindou défendu par le BJP, le parti du Premier ministre Narendra Modi, et celle du parti du Congrès laïque et pluraliste. Le cardinal Georges Alain Cherry est à la tête de la petite église Syro-Malabar, fondée en 52 par l'apôtre Saint Thomas. En Inde, les 2,5% de chrétiens sur le 1,3 milliard d'habitants représentent une petite minorité. Mais l'église est très présente dans le travail éducatif. Or, pour les extrémistes hindous, chrétiens et musulmans sont vus comme des religions étrangères. Les précisions du cardinal Georges Alain Cherry.
Je voudrais vous dire que ce n'est pas l'avis de tout le monde que nous sommes étrangers à l'islam et à la chrétienté. C'est surtout l'avis des extrémistes de l'hindouisme, les extrémistes. Et aussi, je voudrais dire d'abord que n'importe quel gouvernement qui gouverne en Inde, même si c'est du NDA, y compris BJP, et puis l'autre UPA, y compris le Congrès et les autres partis politiques, ils nous gouvernent au niveau d'une démocratie. Il y a la démocratie en Inde. À ce moment-là, aucun gouvernement peut être intégriste ou être contre les chrétiens ou contre l'islam comme ça. Ils essayent ensemble de gouverner le pays avec les principes de démocratie, d'égalité, de fraternité, tout cela. Et ils le disent aussi. Mais il y a parfois les courants politiques dans lesquels les extrémistes à leur façon d'influencer le gouvernement et nous donne les problèmes. Ça veut dire qu'ils nous attaquent. Ils nous disent que cette politique de hindoutva dans laquelle ils disent que l'India est pour les hindous, comme l'Europe est pour les chrétiens, ils disent. Mais nous connaissons bien qu'en Europe, il y a la liberté religieuse. N'importe quelle religion est pratiqué en Europe, aux États-Unis, en tous les pays de l'Ouest maintenant. Comme ça, nous, les chrétiens, et aussi l'islam, demandent liberté religieuse comme la liberté religieuse des hindous.
Mais vous l'avez, cette liberté religieuse, béatitude.
Il y a la liberté religieuse. C'est ce que j'ai dit, qu'uniquement le courant intégriste ou extrémiste qui crée le problème. À ce moment-là, il y a le gouvernement parfois qui agit d'une manière sévère par laquelle les extrémistes sont contrôlés. Mais parfois, ils ne font pas. Voilà. À ce moment-là, il y a le conflit entre les fidèles de plusieurs religions. Ce sont les chrétiens qui sont beaucoup bouleversés par ces attaques parce que nous, les chrétiens, nous ne jamais réagissons. C'est contre notre foi, notre façon de vivre la foi, non? Mais ici, c'est une attaque contre l'islam. L'islam réagit d'une manière différente.
Vous parlez d'attaques, ce sont des attaques verbales, des mots, ou bien des attaques physiques avec des destructions?
Destruction, et parfois par les discours politiques, tout cela, et aussi par les discours dans les médias, dans les Internet, tout cela, ils nous attaquent. Mais les intégristes réagissent par-ci par-là, attaquent sur une église, sur un couvent, sur un missionnaire qui travaille avec les pauvres dans le village, comme ça, ça arrive. Mais on ne donne pas la publicité pour qu'ils ne créent pas le grand conflit.
La question de la conversion. En Inde, il y a 23 millions de chrétiens. Dans ces chrétiens, un certain nombre viennent de la classe des Dalits. C'est bien cela?
Bien sûr. Il y a beaucoup de Dalits, ou bien en catholicisme, ou bien en protestantisme.
Parce qu'ils trouvent là la doctrine sociale de l'Église qui leur est plus favorable, c'est un euphémisme, qui leur est plus favorable que ce que l'hindouisme prévoit pour eux. Est-ce que la question des conversions est problématique quand on vient de l'hindouisme, et qu'on est dalit et qu'on devient chrétien? Est-ce que c'est problématique ou pas?
C'est problématique en le sens que, à ce moment-là, une fois qu'un dalit se convertit, il ne gagne pas les privilèges et les droits qu'on donne par la Constitution pour les Dalits. Parce que les chrétiens n'ont pas le droit de l'avoir.
C'est ça, parce que les Dalits, la Constitution aujourd'hui leur donne des droits qu'ils n'avaient pas, hein, c'est bien cela, mais en devenant chrétiens, ces droits auxquels ils pouvaient prétendre, ils les perdent.
Ils le perdent parce qu'ils disent que dans la Constitution, les chrétiens n'ont pas le droit d'avoir les droits des Dalits. Une fois que vous changez la religion, vous perdez tout ce qui est les droits des Dalits. C'est son argument, leur argument.
C'est quoi les droits des Dalits?
Droits Dalits, il y a la réservation pour l'éducation, tout est payé par le gouvernement. La réservation pour l'emploi, et pour faciliter leur façon de vivre, tout cela. C'est à peu près une protection sociale 100%.
Alors que quand vous êtes chrétien, vous n'avez droit à rien?
Non, rien du tout.
L'éducation, etc., la santé, le soin?
L'éducation, ça devient de la responsabilité de la religion qui se convertisse. Donc nous essayons maintenant de supporter, de soutenir tous sont convertis de Dalit au christianisme pour leur éducation, pour les emplois, etc. Mais ce n'est pas possible pour une église de le faire.
Comment se porte l'église en Inde? Il y a effectivement quand même 20 000 prêtres hein, pour le total, de 6 000 séminaristes, y compris dans les petits séminaires. Est-ce que l'on peut dire que c'est une église en bonne santé?
Bien sûr, à l'intérieur de notre chrétienté et surtout en catholicisme, nous sommes forts, grâce à Dieu. Nous sommes forts, ce que je pense. Maintenant, nous pouvons aider aussi d'autres églises en Afrique, en Europe, aux États-Unis, tout comme ça. Mais ce n'est pas une chose de se glorifier. Non, pas du tout. Parce que le Seigneur nous a donné une ambiance religieuse en Inde. Même s'il y a quelques sangs qui sont intégristes ou extrémistes, l'hindouisme en général, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tout le monde crée quelque chose, non?
J'ai pu entendre que l'Église en Inde pouvait être touchée par cette question des abus sexuels. Qu'en est-il?
C'est vrai, vous avez raison. Nature humaine est la même partout, non? Mais chez nous, la possibilité d'avoir cette criminalité contre les enfants, c'est beaucoup moins qu'en Europe ou ailleurs, parce que nos prêtres et aussi nos religieux, religieuses travaillent avec d'une manière de respect pour les enfants. C'est la culture du pays en hindouisme, en islam aussi. Les enfants sont considérés d'une manière différente. Mais l'autre abus sexuel entre les hommes et les femmes, surtout contre les femmes, non? Parce qu'ils n'ont pas considéré bien égal. En la Constitution, ils sont égaux. Mais vous connaissez bien qu'il y a une priorité des hommes en Inde, dans quelques pays asiatiques.
Une supériorité, oui, vécue comme ça. Supériorité, oui.
Supériorité. À ce moment-là, il y a des problèmes là-dessus. Et c'est plus que la faute contre les mineurs. Mais ça arrive aussi, hein, parce que moi-même, traité quelques cas. Mais autant qu'en Europe, là-bas, non, il n'y a pas.
Dernière question, vous parlez français. Généralement, les religieux indiens parlent anglais. Où avez-vous pas appris la langue française?
Voilà, ici en France même. J'étais ici pour mes études pour 5 ans à l'Institut catholique. J'ai fait un doctorat de théologie biblique. C'était une bonne expérience. Je vous dirais, la langue française et aussi la langue tamoul, j'aime beaucoup parce que ce sont les deux langues du monde, à ma connaissance, qui gardent la pureté, non? L'originalité de pensée et des mots, et aussi de nuances de la parlance, tout cela. Donc j'aime beaucoup la langue française, mais je n'ai pas la chance de pratiquer lorsque je suis en Inde. En Inde, on parle anglais. Voilà. Lorsque les Français touristes viennent, je parle comme ça, ils me rendent visite, etc.
Merci à vous, merci Béatitude.
Merci madame, merci beaucoup.
Le cardinal Georges Alain Chéry, archevêque majeur de l'église Syro-Malabar. La grande histoire à travers la figure des papes et la raconter en bande dessinée, c'est le pari éditorial audacieux et très réussi de la nouvelle collection Un pape dans l'histoire qui réunit les éditions Glénat et Cerf. Les deux premiers albums sont consacrés à Saint-Pierre et Léon le Grand. Bernard Lecomte, spécialiste d'histoire religieuse et politique, auteur de nombreux livres sur la papauté, pilote cette nouvelle collection.
Le constat de départ, c'est que, incontestablement, la BD aujourd'hui complète de plus en plus les livres classiques d'histoire pour la culture historique des uns et des autres. On apprend beaucoup plus de choses aujourd'hui dans les BD que naguère. Il y avait un manque dans ces publications historiques en BD, où on a vu les grands mythes de l'Antiquité, on a vu les grands personnages de l'histoire de France. Il y avait un manque qui a été comblé par Jacques Glénat, le patron des éditions Glénat, et Jean-François Colosimo, le patron du Cerf, qui un jour se sont dit « Et si on racontait l'histoire de l'Occident à travers les papes ?» Vous voyez, la démarche n'était pas de faire des biographies de papes ou bien de faire une série religieuse. Pas du tout. Il s'agit de conduire un vrai projet historique en disant, au fond, ce qui manque le plus souvent dans notre récit historique, c'est ces personnages incroyables qui sont en général à Rome, parfois à Avignon, c'est vrai, mais qui sont en général à Rome, et qui, quand on lit cette histoire de 2 millénaires, sont fondamentaux dans notre histoire. Quand vous prenez les papes, vous voyez les premiers qu'on fait, Léon le Grand, évidemment, le public dit « Oh là là, c'est qui celui-là ?» Ce qui est tout à fait logique, encore une fois. On sait bien que la culture religieuse aujourd'hui, dans notre pays très déchristianisé, est évidemment devenue marginale. Il n'y a pas de malaise là-dessus. Sauf que Léon le Grand, c'est ce grand personnage au 5e siècle, au moment où se délite l'Empire romain. C'est très précis comme période de l'histoire. La fin de l'Empire romain. La fin de l'Empire romain, ça met en valeur un certain nombre de personnages qui vont remplacer les préfets, les gouverneurs, les consuls romains. Ce sont les évêques qui, depuis 5 siècles, construisent l'Église et qui sont devenus des personnages extrêmement puissants et aussi des personnages en qui on a confiance. Et c'est ce Léon Ier, le pape de Rome, qui va devenir l'homme autour duquel tout le monde va se rassembler lorsque vont venir les invasions barbares et notamment les Huns d'Attila. Alors, les écoliers français se rappellent tous 451, l'invasion des Huns. Eh ben, 452, les Huns redescendent de la Gaule et vont ravager Rome. Et c'est ce pape qui va négocier avec Attila. C'est donc ce pape qui, face aux invasions barbares, à une époque où il fallait rassembler un peu tout le christianisme, va faire de la primauté du pape, la primauté, c'est-à-dire la priorité au pape, un vrai projet politique. Et c'est grâce à ce pape que l'Église est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc notre Église, notre histoire, nos racines sont là.
La fresque historique est énorme, puisqu'on va commencer, cette série commence donc à Pâques, avec Pierre, hein, et va se terminer à Jean-Paul II.
Alors, on ne sait pas encore tout à fait, on a décidé de ne pas faire un ordre chronologique. Sinon, vous savez, ça aurait fait, justement, on serait retombé dans le travers de faire des bios de papes. Ce ne sont pas des bios de papes. Bien sûr, c'est l'histoire d'un pape à chaque fois, mais c'est l'histoire d'un pape dans un contexte historique avec d'autres personnages. Léon le Grand, donc, c'est avec Attila. On a, dans la suite, on aura Alexandre VI, c'est les Borgia. On aura Jean-Paul II, on aura Clément V. Alors là encore, les gens vont dire... Oula, Clément V, c'est lequel celui-là ? Ben, tout simplement, c'est le premier pape d'Avignon. Hein. En 1309, les papes s'installent à Avignon. C'est Clément V, qui est d'ailleurs un pape français, et qui s'installe à Avignon. Tous ceux qui ont visité le palais des papes à Avignon vont se remémorer cet épisode. Et chaque personnage est comme ça. Alors, en effet, le pape lui-même n'est pas le seul acteur de chaque album. Il y a en face toujours des personnages importants qui permettent, là encore, de jalonner l'histoire de l'Occident, c'est ça le projet, l'histoire de l'Occident, c'est-à-dire évidemment aussi l'histoire de l'Europe et notre histoire.
Est-ce que l'on peut dire que toutes ces BD qui vont se succéder, eh bien ça raconte les racines chrétiennes de l'Europe ?
Ça raconte les racines de l'Europe. Bien sûr, elles sont aussi chrétiennes. Bien sûr, enfin, ça serait totalement absurde de nier que le christianisme a énormément influé sur l'histoire de l'Europe. Le droit, la culture, l'architecture, etc., bien sûr. Mais encore une fois, le projet Un pape pour l'histoire, c'est pas les racines chrétiennes, c'est les racines tout court. Objectivement, qu'on soit chrétien ou qu'on soit pas chrétien, qu'on soit historien ou pas, on constate qu'il y a une vingtaine ou une trentaine de papes qui ont réellement jalonné l'histoire de l'Occident. On peut évidemment lire leur histoire avec un prisme religieux, naturellement. C'est quand même le pape est le chef de l'Église, et quand on commence une série par Saint-Pierre, c'est pas totalement gratuit, bien sûr. Mais encore une fois, ne nous y trompons pas, on n'a pas voulu faire une série de BD religieuses. C'est une série de BD qui raconte l'histoire de l'Occident avec un angle original qui est cette histoire de grands personnages que sont les grands papes pendant 2000 ans.
Donc des grands papes qui effectivement ont non seulement un rôle religieux, mais aussi un rôle politique, géopolitique même on peut dire, culturel même.
Bien entendu. D'abord tous les premiers papes, justement à partir de Léon le Grand, si vous voulez, tout le premier millénaire jusqu'à la fin du Moyen-Âge d'ailleurs, les papes sont des autorités qui sont aussi politiques, je dirais même géopolitiques. Hein, les papes conduisent en Méditerranée les croisades avec l'alliance de Venise contre Constantinople et que sais-je. Donc là on est dans la grande histoire, la géopolitique. Ces papes en effet sont devenus des chefs politiques et parfois aussi des leaders économiques à partir de cette fameuse période du déclin de l'Empire romain. Tant que l'Empire romain est là, pendant 5 siècles, bien sûr, ce sont les consuls, les gouverneurs, les préfets de la Rome antique qui sont là. Mais quand l'Empire s'effondre, ce sont ces fameux évêques. Vous savez, il ne faut pas aller forcément jusqu'à Rome. Moi, j'arrive, pour vous parler, j'arrive d'Auxerre. Auxerre a été fondé par Saint-Germain l'Auxerrois, le fameux Saint-Germain. C'était quoi, Germain ? C'était un gars qui était avocat, gouverneur, préfet, à qui on a dit « L'Empire romain s'effondre, il faut que vous soyez évêque », et qui est devenu le grand évêque d'Auxerre. C'est exactement la même chose à Rome, et un peu partout dans le monde, ces gens-là sont devenus des grands personnages, évidemment, dont l'influence était bien au-delà du théologique ou du religieux.
Alors, il y a la force du dessin. C'est une force exceptionnelle. On est quasiment comme dans un film, avec des gros plans, des mises en perspective. Pour Saint-Pierre, c'est même quasiment effrayant. On voit sa crucifixion, hein, Saint-Pierre, donc, qui va être crucifié à l'envers. Il y a ce soldat romain en face de lui, leur échange. Il y a dans ces récits la force du dessin qui compte énormément.
Oui, chaque album de cette série est réalisé par un scénariste et par un dessinateur. J'ajoute aussi, il y a un coloriste, il y a parfois un graphiste. Enfin, c'est de la grande BD. Hein. On est chez Glénat quand même. Hein. C'est pas de l'amateurisme, là.
Et vous dedans, vous, votre rôle ?
Moi, je suis un peu le conseiller général de l'aventure. C'est-à-dire, je connais pas mal l'histoire des papes. Et puis, j'ai quand même un peu d'expérience journalistique qui me permet de bien voir ici, attention, on va trop loin. là il faut faire gaffe. Et puis je rédige aussi le cahier documentaire qui est à la fin de chaque album et qui permet d'un seul coup de revenir sur l'histoire, un peu comme dans un manuel scolaire, un peu amélioré, si, enfin j'espère. Et donc moi, mon rôle c'est ça, c'est un peu de porter tout ça, sachant que chaque album est réalisé par un couple différent à chaque fois. Il y a un scénariste, il y a un dessinateur. Tous, franchement, vous verrez, tous de grands talents. C'est quand même les meilleurs de la place. Quand vous voyez justement le dessin de ce Saint-Pierre crucifié à l'envers, hein, comme le veut la tradition chrétienne, et ce Saint-Pierre qui, au cours de cette crucifixion terrible... Cette agonie revoit tout son passé, dialogue avec ce centurion. Là, il faut reconnaître que le scénariste est formidable et le dessinateur, Marc Jailloux, est un artiste inouï. Quand vous voyez la façon dont il dessine tout ça, c'est quand même extraordinaire. C'est la chance aussi de cette série, c'est d'avoir fait appel à des grands scénaristes, à des grands dessinateurs. Moi, je suis très fier de participer à l'aventure, hein, croyez-moi.
Il y a malgré tout un défi à relever parce qu'on est effectivement dans une BD et en même temps, il faut faire passer un certain nombre de messages historique. Et là, je pense au second album Léon le Grand, où l'on parle des conciles avec beaucoup de précision. Effectivement, les conciles, ça a été quand même la grande affaire des débuts du christianisme.
Oui, on ne peut pas évacuer les choses importantes, même si elles sont parfois effectivement un petit peu complexes. Mais ces fameux conciles, le concile de Nicée, le concile de Chalcédoine à l'époque, on est donc au 4e-5e siècle, ces conciles ont eu pour but de mettre un peu d'équerre tout le christianisme. C'est-à-dire que le christianisme s'était développé autour de la Méditerranée, était monté vers l'Afrique de l'Ouest, était monté vers la Gaule, puis vers l'Angleterre. Et bien évidemment, à l'époque, il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas d'Internet. Il fallait quand même que tout le monde se mette un peu d'accord sur les grandes questions. Les grandes questions, c'était, est-ce que le Christ était un dieu ou un homme ou les deux? C'était ça, les grandes questions. Est-ce que la Vierge Marie a porté un homme ou un dieu? On s'interrogeait partout sur ces sujets-là. Et il fallait bien que tout le monde se mette à peu près d'accord pour que le christianisme n'éclate pas en 10, 15 religions ou hérésies. Et c'est là où sont intervenus un certain nombre de papes. Léon le Grand, on en parlait à l'instant. Quelques années plus tard, il y aura Grégoire le Grand, très grand pape aussi, qui vont justement s'imposer, faire de Rome la capitale. Alors, c'est pas seulement la gloriole et le pouvoir politique. C'est aussi le fait qu'il fallait bien que quelqu'un tranche ces grands débats de l'époque. Et donc, à ces conciles, on a vu justement trancher les grandes questions qui sont encore les nôtres aujourd'hui.
Dernière question, Bernard Lecomte, vous êtes un homme de l'écrit, vous n'étiez pas un homme de BD. Qu'est-ce que vous avez découvert en accompagnant ces BD?
Alors, je découvre un univers incroyablement talentueux, complet, professionnel. Franchement, c'est une découverte pour moi. C'est une autre planète, hein. La BD est une autre planète. Les émotions ne se traduisent pas de la même façon. Quand vous voyez le regard de Saint-Pierre, là, dessiné par Marc Jailloux, vous comprenez que jamais un écrivain ne provoquera cette émotion-là, car elle est visuelle. C'est là où le dessin a une importance colossale. L'image de nos jours est en train de s'imposer comme aussi importante que l'écrit, sinon plus importante, et ça se voit, et c'est là où la BD a un avenir évident de pédagogie, de culture, de plaisir. C'est vraiment c'est un univers à part. Je suis en train de le découvrir avec, croyez-moi, beaucoup de plaisir.
Religion du monde, Geneviève Delru.
La foi doit-elle être partagée ou au contraire rester dans le domaine de l'intime? Dans son dernier livre, Un catholique s'est échappé aux éditions du Cerf, Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie, prône face à la déchristianisation ambiante un christianisme qui sort de sa réserve. Alors pourquoi ce coming out alors qu'il est le directeur de la rédaction d'un journal chrétien?
Je dirige un hebdomadaire chrétien, c'est écrit sur la couverture de La Vie. Je n'ai jamais fait mystère de ma qualité de catholique. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'un petit peu différent que j'ai voulu exprimer. Au fond, j'étais élevé non pas dans l'enfouissement, ça c'est la génération peut-être qui me précède, quand il fallait cacher les signes religieux, mais dans une certaine discrétion quant à la foi. Et pourtant, les catholiques parlent beaucoup. Ils parlent de tout ce qu'ils croient importants, par exemple les sujets de société, les sujets sociétaux. Ils ont un point de vue sur les migrants, ils ont un point de vue sur l'euthanasie, ils ont un point de vue sur l'écologie, le travail, la politique. Mais quand on leur demande s'ils ont quelque chose à dire sur l'essentiel, c'est-à-dire leur foi dans Jésus-Christ, mort et ressuscité, ben là, il n'y a plus personne. Et cet abîme entre un christianisme très bavard sur les sujets politiques est très silencieux, très pudique sur les questions plus fondamentales de la foi, m'a finalement paru de plus en plus problématique. Parce que on assiste à un phénomène de sécularisation, en particulier en Europe. Le christianisme est en très mauvais état, l'Église est enlisée dans un certain nombre de scandales, l'institution est très affaiblie. Ben, je pense que de deux choses l'une, soit les chrétiens n'ont plus grand-chose à faire de leur propre foi, auquel cas c'est pas grave, qu'ils ferment la porte de leur église, qu'on mette un écriteau à vendre, qu'on les transforme en supermarché ou en centre de sport, en hôtel de luxe, soit ils ont vraiment reçu quelque chose d'important dans l'église, dans le christianisme, alors il faut qu'ils le partagent. Et au fond, c'est un moment de vérité, c'est un moment où il faut sortir du bois et dire ce qu'on croit, parce que sinon, sinon, ça sera fini.
Alors vous dites, j'étais un catho retenu, hein, Jean-Pierre Denis, un catho prisonnier, sans bracelet effectivement électronique, mais quand même un catho retenu, alors que ma foi, quand je regarde l'histoire du christianisme en France, par rapport effectivement à quelques martyrs, hein, comme l'évêque Potin, Blandine, Saturnin à Toulouse, votre région natale, qui meurt en étant tiré à la queue d'un taureau, etc., vous dites, ma foi, je risquais quand même pas vraiment un sort comme cela.
Oui, c'est le grand mystère finalement, c'est pourquoi les catholiques sont si silencieux alors que personne ne les empêche de parler. Et en effet, j'étais dans cette sorte de prison mentale, persuadé qu'il ne fallait pas déranger parce que c'est contraire à la fameuse laïcité. On a fini par intérioriser que la foi est une affaire purement privée, ce qui n'est d'ailleurs pas du tout la bonne définition de la laïcité. Et un jour, je me suis appuyé contre la porte de cette prison mentale, presque sans y faire attention, et je me suis aperçu qu'elle n'était pas fermée, n'était pas verrouillée. Et je suis sorti. Je suis sorti de moi-même. Je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de gardien devant la porte. Je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de mirador, on n'allait pas me tirer dessus, ou en effet, on n'allait pas me jeter au lion comme ça se faisait à l'époque des premiers chrétiens. Et donc, en fait, je suis né libre, chrétien, dans un pays libre, dans lequel le christianisme a tout à fait le droit de citer, et le christianisme reste évidemment visible, et je dirais même qu'il est extraordinairement attendu. Simplement, les catholiques sont persuadés du contraire, c'est quand même extraordinaire. Alors j'ai peut-être une hypothèse, je me dis qu'au fond, si les catholiques ont l'impression qu'on n'attend plus rien d'eux, ce n'est pas parce qu'on leur dit « taisez-vous », c'est parce qu'ils parlent trop fort. Ils sont tellement en train de parler de toutes sortes de sujets, ils sont tellement en train d'expliquer aux gens comment ils doivent... ils sont tellement finalement en train de faire la morale autour d'eux, quelle que soit la sphère de cette morale, en fait, hein, que ce soit une morale privée, sexuelle, familiale, sociale, environnementale, ils sont tellement en train de faire la morale, ils parlent tellement fort, avec tellement d'assurance, qu'ils n'écoutent pas la petite voix qui est juste à côté d'eux, qui est celle de leur voisin, qui est celle de leur conjoint, qui est celle de leur cousin, qui est celle de leur collègue, qui est celle de la personne avec laquelle ils vont discuter au bistrot, et qui leur dit « donne-moi à boire ». Et « donne-moi », répond finalement à mon inquiétude existentielle. Et c'est vrai que j'ai écrit ce livre aussi à partir de ma dernière conversation avec mon père, qui était un catholique qui ne mettait pas souvent les pieds à l'église, comme beaucoup de chrétiens de ce pays et de gens de sa génération, et qui, dans la dernière conversation que j'ai eue avec lui, m'a dit « Dis-moi, quel est le chemin ?» Et c'est vrai que je n'ai pas su répondre à cette question. Ça a été un grand trouble pour moi, parce que je suis catholique depuis un demi-siècle, j'étais baptisé à la naissance. Je suis journaliste depuis 25 ans, spécialiste des questions religieuses, je dirige un journal chrétien, et voilà que quand mon père me pose cette question fondamentale, je suis incapable de lui répondre. Alors c'est vrai que d'un père à un fils, d'un fils à un père. La conversation n'est pas toujours facile sur les choses les plus fondamentales. On a une sorte de pudeur qui nous retient, de modestie, de discrétion. On n'aime pas, au fond, s'étaler. Mais constater que je n'étais pas capable de répondre à cette question fondamentale pour mon père au moment où il en avait le plus besoin m'a profondément troublé et déstabilisé. Et je vais vous faire une confidence. À partir de là, j'ai réécrit ce livre de A à Z. Parce que je me suis dit, je ne peux pas faire la leçon, je ne peux pas être en surplomb, je ne peux pas dire, je suis un spécialiste, je suis un expert, je vais tout vous expliquer. Il faut que je parte de la réalité, de ce constat de ma propre incapacité à répondre. Et c'est là que je me suis mis à revenir sur toutes les rencontres que j'avais pu faire avec des gens qui ne sont pas chrétiens, avec un franc-maçon, avec un musulman, un chauffeur de taxi musulman, avec une personne qui n'était pas chrétienne, et aussi avec d'autres chrétiens différemment de moi. Et je me suis aperçu que l'évangile que je voulais annoncer, c'est eux, en fait, qui me le réclamaient. Je dirais, je mettrais ça d'une formule, l'évangile, c'est les autres. C'est-à-dire, on prétend qu'on veut annoncer la foi. En fait, il faut écouter la demande d'évangile qui monte de tout être humain, parce que c'est un besoin fondamental de l'être humain.
Jean-Pierre Denis, oui, effectivement, dans votre livre « Un catholique s'est échappé », vous écrivez « C'est un Congolais qui m'a converti, un Congolais vivant en Mongolie, et qui vous a dit « vous nous avez envoyé des missionnaires, mais aujourd'hui, vous êtes des missionnaires ». Est-ce que tout est dit dans cette phrase ?«
Vous nous avez envoyé des missionnaires ». Au Congo, effectivement, les missionnaires belges ont amené l'évangile au Congo, et aujourd'hui, vous êtes des missionnaires, autrement dit, vous avez démissionné. Et il m'a fait remarquer, ce missionnaire, que c'était toujours finalement la même arrogance de l'Occident qui, après avoir ordonné aux Africains de croire, voulait maintenant le leur interdire parce que c'était passé de mode chez nous. Et simplement, il m'a fait comprendre que c'était fini, l'époque où nous pouvions dire aux Africains s'ils devaient croire ou pas croire, et maintenant ils n'attendaient plus de leçons de nous. Et non seulement ils n'attendaient plus de leçons de nous, mais ils partaient répandre l'évangile dans le monde comme ils l'avaient reçu des fameux missionnaires belges à l'époque du Congo. Et c'est vrai que c'est complètement inattendu, je l'ai rencontré au cours d'un reportage, c'est complètement inattendu de se retrouver au fin fond de la Mongolie, qui est un pays qui a vécu un énorme traumatisme, un des pays les plus martyrs du stalinisme, et de voir dans ce pays le plus froid du monde des missionnaires donnés pour toute la vie, comme les missionnaires français le faisaient autrefois quand ils partaient en Afrique, en Amérique ou en Asie. Et j'ai imaginé que peut-être dans 20 ans, dans 50 ans, ce seraient des Congolais qui seraient en Mongolie, mais ce seraient aussi des Mongols qui viendraient en Europe apporter l'évangile que nous aurions oublié, que la boucle serait bouclée. Et à partir de là, je me suis dit, mais évidemment, il y a le côté, il y a la leçon que nous donnent ces chrétiens du Nouveau Monde, mais il y a aussi l'idée que nous devons toujours être réévangélisés par les autres. Et donc l'époque où on pouvait prétendre, comme ça, ex abrupto, débarquer et dire, voilà, je vais vous apporter l'évangile, elle est un peu terminée. Maintenant, nous avons aussi à le recevoir. Et moi qui suis catholique, je me dis que je ne suis pas le dernier à le recevoir. Et d'ailleurs, vous faisiez allusion aussi à un chrétien, un pasteur évangélique. Je dirais que moi, j'ai envie qu'on cherche le christianisme tous ensemble. Je suis très heureux dans l'Église catholique. Mais ce pasteur m'a fait remarquer, je crois à juste titre, que l'Évangile nous était un petit peu monté à la tête. On sort de quelques décennies d'intellectualisme, d'abstraction, on a combattu la religion populaire, la piété populaire, on n'a jamais eu de mots assez durs pour ça.
Méprisant, oui.
On a dit que les processions, que c'était pas vraiment le vrai christianisme. On a dit que l'adoration eucharistique, c'était pas le vrai christianisme. On a dit que les confréries religieuses qui accompagnaient les défunts dans certaines régions, comme la Corse, c'était pas le vrai christianisme, que c'était un fond de paganisme. Bref, la foi nous est montée à la tête. Et ce pasteur évangélique m'a convaincu qu'il était temps qu'elle redescende de quelques centimètres jusqu'à toucher notre cœur. C'est pas un long voyage, mais parfois les voyages les plus courts sont les plus difficiles à faire. Je suis un enfant de la République, j'ai grandi dans les écoles publiques, mais je suis aussi un enfant de l'Église, un enfant du christianisme. Si j'ose dire, j'ai deux mères. et je leur dois beaucoup. J'ai une grande reconnaissance pour les prêtres qui m'ont permis de franchir toutes les étapes les plus importantes de ma vie. Et donc, c'est aussi avec le cœur que j'ai envie de parler, parce que je ne peux pas vraiment supporter que dans le climat dans lequel nous sommes, ce christianisme-là soit bafoué, oublié, nié, remisé, déstocké, soldé et liquidé. Ça, je ne peux pas le supporter. Donc, en effet, oui, j'ai écrit ce livre un peu avec ma tête, mais beaucoup avec mon cœur. Alors, je ne savais pas que nous allions entrer dans une période aussi difficile. Ce sont des années difficiles pour les chrétiens qui ne se sentent pas toujours reconnus dans la société qui sont confrontés à des problèmes dans leur église. Mais finalement, je me dis maintenant, si moi je ne fais pas ce chemin, cet effort pour aider, en fait, autant que je peux le faire à partir de ma toute petite expérience, à partir de mes propres échecs, à partir de mes propres difficultés à sortir de moi-même, si je ne fais pas ce chemin maintenant, ben je ne suis pas cohérent. Aujourd'hui, les chemins, c'est les chemins de l'existence. C'est la naissance ou l'avortement, c'est l'amour ou la rupture, c'est le deuil, c'est la joie, c'est le courage, les grandes expériences fondamentales de l'être humain. Ça, c'est ce que j'appelle les grands carrefours existentiels. Et c'est là que doivent être les chrétiens, parce qu'ils doivent se tenir là et répondre en fait aux questions des personnes qui passent là et qui demandent leur chemin, justement. C'est la question de mon père, quel est le chemin? Maintenant, je sais que c'est là que je voudrais me tenir, à ces carrefours, à ces, voilà, à ces lieux de rencontre de la vie, de la vie ordinaire, je dirais. Et c'est pas dans des grandes déclarations, c'est pas dans des professions de foi solennelles, c'est vraiment dans la réponse urgente à quelqu'un qui veut savoir au fond quel est le sens de la vie.
Religion du monde, Geneviève Delrue.
Jean-Pierre Denis, j'ai relevé une phrase dans votre livre « Un catholique s'est échappé ». Mon métier, ça n'est pas Dieu. Alors, bon, je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie. Donc, mon métier, ça n'est pas Dieu, c'est la déprime. J'appartiens à un peuple en voie de démoralisation et à une religion en voie d'évaporation. Oula, tout est dit là.
Tout est dit si on veut s'arrêter là. Mais c'est vrai que c'est un constat qui peut sembler abrupt. Je le dis avec une pointe d'autodérision. Évidemment, nos auditeurs l'auront compris. C'est vrai que c'est pas toujours très très joyeux, ni dans l'Église ni dans la société française. Il y a d'ailleurs sans doute plein de raisons à cela. Mais si je fais ce constat, c'est précisément parce que je pense qu'il faut rebondir. Je pense qu'il y a toujours une tentation dans le christianisme. C'est une tentation du déni des problèmes. Il y a une tentation aussi du c'était mieux avant, vous voyez, c'est-à-dire. Donc ce sont deux tentations complètement inverses. Donc je commence par faire ce constat, peut-être un peu dur à entendre, mais si je le fais, c'est parce que je suis persuadé qu'on n'est pas condamné à cette fatalité d'une culture de plus en plus malheureuse d'être elle-même. Il n'y a pas de fatalité, en fait, à cette crise. En revanche, il y a une véritable crise d'identité, il y a une véritable crise existentielle. Et si je compare, et si je rapproche le déclin du christianisme de la crise de l'Occident, c'est parce que je défends une idée qui ne va pas de soi, qui peut me valoir quelques critiques, quelques ennemis peut-être, et cette idée, c'est que les deux sont liés. Je suis persuadé que on ne redonnera pas une énergie à l'Europe sans passer par des retrouvailles avec le christianisme. Bon, pour moi, c'est absolument fondamental. Je le dis très tranquillement, alors j'essaie de le démontrer. J'ai consacré il y a quelques années tout un livre à cela. C'est-à-dire, je suis persuadé que l'Église ne traverse pas une crise culturelle. Je pense au contraire qu'elle est prise dans la crise culturelle de l'Occident. Mais ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que la réponse à cette crise culturelle de l'Occident viendra aussi, peut-être pas exclusivement, mais viendra aussi par un renouveau du christianisme.
De la reconnaissance de ses racines chrétiennes, un sujet quand même délicat, tabou même.
Bah, vous parlez de racines, moi je parlerai plutôt de sources. Mais je sais aussi que les arbres, on peut les couper, on peut même arracher les souches, on peut les mutiler. Ils peuvent être malades. En revanche, les sources, rien ne peut arrêter une source. Vous ne pouvez pas enfermer pour toujours une source. Il y a toujours un moment où l'eau va sourdre. Et pour moi, le christianisme, c'est ça, c'est une source. Et c'est d'ailleurs ce qui traverse la Bible, les fameuses rencontres autour du puits, dont la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Donc cette source, elle est là pour toutes les soifs. C'est open source, pour employer cette image, emprunter cette image au vocabulaire du numérique et de l'informatique. Ben cette source, elle est donc ouverte, elle est ouverte à tous. Et donc pour moi, c'est extrêmement important. D'ailleurs, on est dans une époque dans laquelle les gens vont et viennent, comme autour des puits dans le désert à l'époque biblique. Les gens vont et viennent, c'est-à-dire qu'ils se rapprochent de cette source, ils viennent y boire et ils s'en éloignent. Quand ils s'en rapprochent, ce n'est pas nécessairement pour s'y installer. Des gens peuvent avoir, à des moments de leur vie, besoin de se ressourcer dans le christianisme. Et quand ils s'en éloignent, ce n'est pas nécessairement définitif. Or, on a tendance, et c'est un peu une approximation, une simplification sociologique un peu bébête, on a tendance à penser que c'est stop ou encore. En fait, c'est plus compliqué que ça. La vie, aujourd'hui, elle est fluide. Et il faut simplement que la source soit accessible pour que n'importe qui puisse venir y boire. Moi, j'ai un de mes amis prêtres qui disait un jour dans une prédication, personne n'est trop loin de l'Église. Alors, je crois que c'est ça aujourd'hui la bonne attitude pour les chrétiens.
Ce que vous voulez dire, Jean-Pierre Denis, c'est que le baromètre du christianisme, ça n'est pas forcément que la fréquentation de l'Église le dimanche, qu'il y a aussi de multiples façons aujourd'hui d'être dans le christianisme. Ça peut être bénévole au Soco catholique, bénévole au CCFD, ça peut être dans une chorale à la campagne. Il y a de multiples façons d'être chrétien.
Il y a de multiples façons d'être chrétien. Ça peut être aussi, vous savez, la pratique religieuse aujourd'hui devient difficile, par exemple si vous habitez à la campagne. Mais le témoignage personnel de la foi, ça c'est le point vraiment fondamental. Donc je pense qu'il faut sortir des logiques binaires. Mon expérience, c'est aussi que très loin de l'Église comme bâtiment historique, beaucoup de gens ont un attachement en fait plus important qu'eux-mêmes ne le pensent au christianisme. En d'autres termes, si on leur proposait par enchantement ou par maléfice de faire disparaître purement et simplement toute trace du christianisme en France et dans le monde, je ne suis pas sûr qu'ils en soient si contents. Au fond, je crois que beaucoup d'urbains, de citadins, de gens d'aujourd'hui, en fait, n'osent pas croire, mais aimeraient croire et sont contents qu'il y ait des gens qui croient par procuration, pour eux. C'est une chose toute simple qui m'en a convaincu profondément. Une de mes amies qui était enceinte, qui a accouché d'un bébé très prématuré, et cette jeune femme n'était pas chrétienne, et je lui ai proposé de prier pour son bébé en disant, bah, si tu veux, je prierai pour ton bébé. Et elle m'a dit oui, je veux, alors qu'elle n'était pas chrétienne. Et il se trouve que par la suite, elle a entrepris un chemin qui l'a amenée à devenir chrétienne. Ce qui veut dire deux choses. D'abord que des gens peuvent en fait attendre des chrétiens une parole, et encore une fois qu'on n'est pas enfermé ni à l'extérieur de l'église ni à l'intérieur d'ailleurs, parce que c'est vrai aussi, je comprends que des personnes puissent avoir vécu des expériences négatives qui les ont amenées à prendre un petit peu leur distance. Enfin, c'est la vie, hein.
En fait, vous faites hein, la poutre, si je puis dire, Jean-Pierre Denis, d'une contre-culture, mais qui reste tout à fait dans la culture contemporaine, d'une contre-culture qui développerait les valeurs faibles qui ne sont pas forcément mises, effectivement, en exergue sur le podium dans nos sociétés.
Un petit mot pour m'expliquer, si vous voulez. Une contre-culture, ce n'est pas être contre la culture. Je fais allusion aux expériences un petit peu utopiques. Vous savez, ces jeunes qui sont partis en Californie ou sur le plateau du Larzac en France dans les années 60 ou 70 pour inventer une autre société. En d'autres termes, c'est ce que Benoît XVI appelait les minorités créatives. Ce n'est pas donc être contre pour faire la contre-révolution, c'est être tout contre la société en étant un petit peu distinct, c'est-à-dire être capable d'imaginer en fait le monde dans lequel on a envie de vivre. Et ce monde, moi je le vois porté par ce que j'appelle les valeurs faibles, c'est-à-dire non pas le grand discours sur les valeurs qui a conduit à tellement de désillusions, quelles que soient ces valeurs, et que ces valeurs soient des valeurs chrétiennes finalement, les valeurs familiales, etc., ne changent pas grand-chose. Moi, ce qui m'intéresse dans les valeurs faibles, c'est que le christianisme renverse précisément toutes les valeurs. C'est la fameuse réflexion de Saint Paul qui dit « c'est quand je suis faible que je suis fort ». C'est une religion qui insiste sur le fait que son Dieu a été crucifié. Donc, fondamentalement, l'évangile est fondé sur un renversement des valeurs. Et ces valeurs faibles que j'essaie de lister, d'évoquer, ce sont des valeurs d'ailleurs universelles, la pauvreté, la fragilité, la gratuité. Ce sont des choses qui sont... vous savez, je peux me permettre peut-être une petite anecdote. Quand, au moment de Noël, je suis rentré à la demande de mon curé dans les commerces de mon quartier pour proposer une petite image de Noël, la première réflexion des commerçants, ça a été de me dire « combien ça va me coûter ?» Et je me suis dit « c'est triste, une société dans laquelle, quand on vient faire un cadeau, le premier réflexe, c'est « combien ça va coûter ?» Voilà une société qui est devenue profondément matérialiste. Et quand on dit « ça ne vous coûtera rien, je n'attends rien de vous, je veux juste vous souhaiter un joyeux Noël », tous les visages, je vous assure, se transforment et s'illuminent. Voilà la gratuité dont nous sommes porteurs. C'est pas pour demander aux gens de s'inscrire, c'est pas pour leur demander de payer le denier du culte, c'est pas pour leur demander de faire du bénévolat, c'est juste une visite qui n'attend rien et qui est totalement gratuite. Ben, ces valeurs faibles, ce sont des valeurs de rencontre. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour s'y reconnaître, mais les chrétiens peuvent, eux, les proposer à l'ensemble de la société.
Jean-Pierre Denis, qui signe aux éditions du Cerf, « Un catholique s'est échappé ». C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delerue, Sophie Janin vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.